Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouverez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, d'abord je vous souhaite à tous une sainte fête de Noël, pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Il faut méditer la fête de Noël pour surtout demander au bon Dieu le don de force dont on a le plus besoin, arriver à garder la paix intérieure malgré la révolution qui gronde partout en France, malgré la guerre civile qui menace, malgré Bergoglio qui continue de détruire tout ce qui reste de foi catholique. Croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, cet enfant nouveau-né qui semble tellement, humainement parlant, tellement faible, incapable de survivre sans le lait de sa mère, mais cet enfant est Dieu. Il est Dieu, il est la voie, la vérité, la vie, il est celui qui peut remettre toutes les choses en place. Hein. Alors prions le bon Dieu, demandons la grâce d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, de voir derrière cet enfant, apparemment encore une fois tellement faible, de voir à la fois un roi, à la fois un Dieu, à la fois un homme. Et au fond, nous aussi, avec les trois rois mages, l'or au roi, l'encens au Dieu et la myrrhe à l'homme. Nous continuons dans les explications des Pères de l'Église sur ce chapitre 13 de Saint Matthieu. Donc nous sommes à la fin du chapitre 13 sur le polycopier. C'est le troisième polycopier, polycopier des chapitres 11 à 15 de Saint Matthieu à la page 30. Donc notre Seigneur Jésus-Christ vient d'expliquer à ses disciples, à ses apôtres, les différentes petites paraboles sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui trouve un trésor dans son champ et qui vend tout ce qu'il a pour posséder le trésor. À une personne qui a un marchand, qui a trouvé une perle précieuse, plus belle que toutes les perles possibles et imaginables, et qui vend tout pour acheter cette perle précieuse. Alors, à la page 30, au verset 51 de ce chapitre 13, le Seigneur demande aux apôtres, « Avez-vous compris tout cela ?» Et ils répondirent, « Oui. » Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils aient vraiment compris. Mais encore longtemps, loin avant la fête de la Pentecôte, les apôtres ont encore trop tendance à comprendre les choses, l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ de façon purement matérielle. Ils attendent encore un événement sensible, je dirais, de notre Seigneur Jésus-Christ, un événement politique immédiat. Ce n'est pas ce qui va arriver. Alors notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, c'est au verset 52 et 53 de la page 30, verset 52 et 53 du chapitre 13 de Saint Matthieu, c'est pourquoi tout scribe, instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il arriva que lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur les livres que j'ai consultés, soit Saint Thomas, soit le Père Thirier, soit Cornelius à Lapidus, sur ces versets-là. Donc ce sont ceux qui tirent de leur trésor, disent les pères, des choses nouvelles et des choses anciennes, lorsque par la vie comme par leur parole, ils annoncent des vérités renfermées dans les deux testaments. Celui-là doit être regardé comme dans l'Église comme un prédicateur instruit qui sait dire les choses nouvelles sous les douceurs ineffables du royaume des cieux et les choses anciennes sous la rigueur effrayante des supplices éternels, afin que les châtiments épouvantent ceux qui demeurent insensibles à l'attrait des récompenses. Et on voit bien ici que notre Seigneur Jésus-Christ mêle à la fois la justice et la miséricorde. Il ne faut pas parler que de la justice parce que ça décourage les gens. Il ne faut pas parler non plus que de la miséricorde parce que ça trompe les gens. Alors il faut parler un petit peu des deux. Il faut expliquer le Nouveau Testament par l'Ancien Testament. Et dans certains cas, expliquer l'Ancien Testament en utilisant ce concept du Nouveau Testament. Donc les choses nouvelles représentent, je crois, d'après ce que disent un peu les pères, que ce n'est pas très clair ici. Me semble-t-il, les choses nouvelles représentent le Nouveau Testament, donc l'évangile de la miséricorde, alors que les choses anciennes représentent la justice de l'Ancien Testament. Mais n'oublions pas, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, mes bien chers frères. C'est le même Dieu qui est annoncé. Mais dans l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ attire les âmes à lui par la crainte. Dans le Nouveau Testament, il va attirer les âmes à lui par l'amour. Et dans les deux cas, c'est exactement le même Dieu. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas changer sa doctrine. La doctrine est toujours la même. N'oublions pas que la doctrine de l'Église ne change pas. Il n'y a pas besoin d'adapter la doctrine de l'Église au temps dans lequel nous vivons. Avec toutes les autres choses matérielles, il faut toujours changer. Ça change toutes les 5 minutes. Mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne change pas. Quand les gens me disent, mais il n'y a pas idée d'aller expliquer les évangiles. J'ai entendu ces réflexions. Il n'y a pas idée d'aller expliquer les évangiles avec des textes de saint Thomas d'Aquin qui datent du XIIIe siècle. Vous n'avez rien de plus moderne? Je le réponds toujours, vous savez, moi je suis un évangile qui a été écrit il y a 20 siècles. 2000 ans. Eh bien, il n'y a pas besoin de choses de changer quoi que ce soit parce que cet évangile n'a pas pris une ride. De même que les textes de saint Thomas d'Aquin n'ont pas pris une ride. Que ce soit dans ces textes théologiques, dans la somme théologique de saint Thomas, ceux qui sont intéressés, vous avez un cours que je mets sur internet tous les vendredis en principe, contenant justement des explications sur la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, rien n'est changé. Ça ne change pas, la doctrine ne change pas. Et saint Thomas d'Aquin reste le plus grand des théologiens et certainement un des plus grands des exégètes. Donc il n'y a pas besoin d'adapter, avoir cette idée d'adapter constamment l'Écriture sainte au temps dans lequel nous vivons. Notre Seigneur Jésus-Christ a prêché une doctrine qui est valable pour tous les temps. Une sainte catholique apostolique. Que ça veut dire une église, une sainte catholique et apostolique? Catholique, ça veut dire universelle. Donc c'est une église qui est valable, c'est un enseignement, l'enseignement qui est derrière l'église, qui est valable pour tous les temps. Qui est valable pour tous les temps. Pour toutes les églises, pour toutes tous les royaumes, toutes les différentes parties du monde, tous les temps, c'est catholique, c'est universel. Universel, c'est pas simplement pour toute la terre, c'est universel aussi dans le temps. Et l'enseignement de l'évangile était valable il y a 2000 ans, il est valable à 1000 ans, il est valable aujourd'hui, il sera valable dans 2000 ans, il n'y a rien à changer. Même si à l'époque, la technique peut faire changer la façon de vivre, on aura toujours une âme à sauver dans 2000 ans, s'il y a encore des hommes ici-bas. Voilà, bien cher, ce qu'il faut comprendre. Voyons les versets 54 à 58, en bas de la page 30. Étant venu dans son pays, il les instruisait dans les synagogues, de sorte qu'ils étaient dans l'admiration et disaient, d'où viennent à celui-ci et cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils prenaient de lui un sujet de scandale. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur. N'est sans honneur que dans son pays, dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. D'abord, le pays de notre Seigneur Jésus-Christ, tel quel, je vous l'ai déjà expliqué souvent, c'est Capharnaüm. Capharnaüm, c'est la ville de notre Seigneur. Donc en général, lorsque l'évangile parle de son pays, en parlant de notre Seigneur, c'est la région de Capharnaüm. Donc il prêche dans les synagogues. Et là, attention, donc il y a un passage qui est important, verset 15, et verset 55, pardon, et 56. Notre Seigneur, dans son évangile, ici parle de ses frères, de ses sœurs. Ces passages sont utilisés surtout par les modernistes et également par les protestants, pratiquement ils disent la même chose. Protestants et modernistes utilisent ces versets pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ a eu des frères et sœurs, donc la Sainte Vierge Marie n'est pas vierge, puisqu'elle a eu d'autres enfants après notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre que dans la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, l'araméen, le mot frère et sœur représente les membres de la famille en général. C'est-à-dire tous les cousins, cousines. C'est encore le cas dans certaines tribus en Afrique, par exemple, où quand on parle des frères et des sœurs, ce n'est pas les frères et les sœurs de sang, c'est les frères et les sœurs qui sont. C'est toute la famille, toute la tribu, littéralement. Donc les frères et les sœurs, c'est tous les ceux qui étaient autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est évident, il est de foi catholique que notre Seigneur Vierge Marie est vierge. Elle était vierge avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est vierge pendant la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est vierge pendant la grossesse de 9 mois depuis le 25 mars jusqu'au 25 décembre. Et elle est vierge également après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas détruit la virginité de notre Sainte Vierge Marie, qui est à la fois vierge et mère. Mystère insondable. Donc le Père du Christ est en effet voilà ce que disent les Pères donc en bas de la page 30, est en effet ce divin charpentier qui a fait l'univers avec tout ce qu'il renferme, qui a donné le plan de l'arche de Noé, fait connaître à Moïse l'ordonnance du tabernacle, établi l'arche d'alliance. Divin charpentier qui aplanit les intelligences raboteuses, retranche toutes les pensées orgueilleuses. Là, il y a une allusion très nette des pères au texte d'Isaïe, repris par Saint Jean-Baptiste. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, il va aplanir les montagnes, il va combler les vallées pour bien montrer qu'il va détruire l'orgueil qui empêche le passage qui mène à la crèche de Bethléem. Faut construire des ponts, il faut construire un pont sur la vallée. La vallée représente justement la pusillanimité, c'est-à-dire la petitesse d'âme qui nous empêche d'avancer vers notre Seigneur Jésus-Christ par peur. Et les collines représentent au contraire le péché d'orgueil. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va aplanir tout ça pour que les intelligences ne soient plus raboteuses mais bien lisses pour qu'elles puissent progresser avec facilité vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur est le fils de cet ouvrier qui dompte le fer par le feu, qui dissout toute la puissance du monde dans les ardeurs de son jugement, qui plie la matière aux usages de l'homme, et qui donne à nos corps la forme pour que les membres puissent remplir leurs divers offices et concourir aux œuvres de la vie éternelle. Donc là, il y a cette petite note donc, que j'ai déjà expliquée. Il n'est pas étonnant, au de la page 31, qu'on ait appelé frère du Seigneur tous ses parents. Du côté maternel, puisque les Juifs qui pensaient que Joseph était son père appellent également ses frères tous ceux qui étaient parents de Joseph. Donc toute la famille éloignée de Saint Joseph et la famille éloignée de notre Sainte Vierge Marie, tout ça forme les frères et les sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Analogiquement, un petit peu comme les catholiques sont tous frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ par adoption. Donc, il y a aussi une phrase qui me semble importante que j'explique souvent dans les milieux. Quand je dis dans la fraternité, c'est une catastrophe. Le gros problème de la fraternité Saint-Pélagie dans certaines régions, surtout en France, c'était la mondanité, cette épouvantable mondanité qui bloquait les âmes, qui empêchait les âmes de monter vers le bon Dieu. Cette mondanité qui faisait qu'on allait à la messe traditionnelle, je ne dis pas pour se montrer, mais presque. De mondanité où on était uniquement entre nous en méprisant tous ceux qui n'étaient pas du milieu, comme on dit. Et il y avait un espèce de mépris chez beaucoup, malheureusement beaucoup de catholiques, un espèce de mépris des gens simples. Un mépris des gens qui ne sont pas des gens qui ont une certaine aisance matérielle, une certaine aisance financière. Ça fait énormément de mal aux âmes. Beaucoup d'âmes se sont sont passés par les chapelles, quand je dis la fraternité, c'était très net, et puis ils sont partis parce que justement ils n'ont pas été accueillis, parce que c'était pas des gens du milieu, comme on dit. Et c'est là où il faut utiliser ce qui est dit au verset 55, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu naître dans une famille d'artisans. Saint Joseph était artisan. Il n'est pas né au milieu de la soie et des coussins dans les palais des rois. Il est né chez un artisan. Saint Joseph était un artisan. Donc il y a aucun, jamais l'Église a eu ce mépris qu'ont beaucoup de nos de fidèles, malheureusement, beaucoup de fidèles, ont cette espèce de mépris pour la vie simple, pour la vie matérielle, pour la vie ouvrière. Notre Seigneur Jésus-Christ était, j'aime pas trop le mot ouvrier parce que c'est un sens que je ratifie aujourd'hui, mais était un artisan. Il avait appris de son père putatif, Saint Joseph, comment fabriquer les tables, les chaises, les charrues, parce qu'il faisait exactement. Mais son père putatif était charpentier, il lui a appris le métier. Donc n'ayons pas ce mépris pour les gens petits. La plupart des gens qui tombent dans la mondanité vont tomber en conséquence de cette mondanité dans l'orgueil. Et cet orgueil peut faire des catastrophes, parce que l'orgueil dessèche le cœur. Il y a deux choses qui dessèchent le cœur, l'argent et l'orgueil. L'argent et l'orgueil. Donc, attention à garder cette vertu de charité, ne pas mépriser les petites gens. Il y a souvent beaucoup plus de générosité chez les petites gens que chez les gens mondains. Et il faut que les catholiques, même dans nos chapelles, fassent un effort, je dirais, quand ils rencontrent des gens qui viennent pour la première fois dans nos chapelles et qui viennent de milieux très simples, ben d'aller vers eux, faire un effort pour se mettre à leur niveau, les aider à être acceptés dans la chapelle, les aider à être heureux dans la chapelle. C'est une, je vous l'ai déjà dit souvent, mais c'est certainement la chose qui m'a le plus frappé chez Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre était capable d'être à l'aise partout, dans tous les milieux. Je l'ai vu, de mes yeux, vu, entre autres au Mexique, j'ai vu Monseigneur Lefebvre avoir cette simplicité quand il était avec ces gens du sud du Mexique, dans la région de Tuxtepec, dans l'état de Veracruz, sur le golfe du Mexique, avec des gens qui étaient inalphabètes pratiquement, sans venir en écrire. Dans les milieux dans lesquels il n'y avait pratiquement pas d'électricité, pas d'eau courante, parce que rien, les gens se déplaçaient à pied ou à cheval, il n'y avait pas de voies carrossables vraiment, c'était de la boue partout. Monseigneur Lefebvre était parfaitement à l'aise et parlait du bon Dieu, montait les âmes vers le bon Dieu. Je ne dis pas, il faut, voyez, il faut éviter ce piège de la révolution qui consiste justement à diviser les gens en strates. Dans strate horizontale, c'est ce que Karl Marx appelait la lutte des classes. Il ne faut pas tomber dans ce panneau de la lutte des classes. Il faut des strates, et non pas des strates horizontales, mais des colonnes verticales, avec tous les degrés de la société. L'Église catholique a été fondée pour tous les membres de la société humaine, les petits gens et les gens qui ont plus de moyens intellectuels, moyens financiers ou autres. Donc attention à cette vertu d'humilité. En haut de la page 31, pardon. Il y a encore là une petite note intéressante. Quand Julien l'apostat demanda par dérision à un chrétien ce que faisait le fils du charpentier, c'est-à-dire cette espèce de mépris chez Julien l'apostat, l'empereur, qui était un ancien catholique qui avait apostasié, ce que faisait le fils du charpentier, notre Seigneur Jésus-Christ, le chrétien répondit avec esprit, il fait un cercueil pour Julien. Il fait un cercueil pour Julien. Quelques notes ici tirées des Pères et aussi tirées de Baronius, donc un grand historien. La Vierge Marie avait comme cousin trois sœurs appelées Marie. Marie, épouse d'Alphée, Marie, épouse de Cléophas et Marie Salomé, épouse de Zébédée. Donc les historiens ne sont pas trop d'accord. Beaucoup pensent que Marie, épouse d'Alphée et Marie, épouse de Cléophas, étaient la même personne. Donc Cléophas, d'abord, était le frère de Saint Joseph. Donc l'époux, Saint-Joseph, l'époux de Sainte Vierge Marie, avait un frère qui s'appelait Cléophas. C'est ce même Cléophas qu'on va retrouver plus tard, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en route vers Emmaüs avec Saint-Luc. Vraisemblablement, c'était lui, Saint-Luc et Cléophas. Et donc, ce Cléophas avait une épouse qui s'appelait Marie. Donc on l'appelait soit Marie Cléophas. Donc ici, j'ai sorti un petit peu des pères ce que j'ai trouvé. Marie, épouse d'Alphée, était mère des apôtres Saint Jacques, Saint Jude et mère de Saint Joseph. Marie était épouse, notre Marie épouse de Cléophas, mère de Saint Siméon qui succéda à Saint Jacques comme évêque de Jérusalem. Et Marie Salomé, épouse de Zébédée, mère des apôtres Saint Jacques et Saint Jean. Alors, encore une fois, là, je vous ai déjà dit, les historiens ne sont pas trop d'accord entre eux sur ces généalogies. C'est pour ça que j'ai vu là, je crois que j'ai trouvé ça dans Cornelius à Lapide. Il est clair que Marie, femme d'Alphée, est la même que Marie, épouse de Cléophas. Il semblerait donc que la même Marie de Cléophas ou d'Alphée fut la mère de quatre Jacques. Des quatre Jacques, Joseph, Simon et Jude. Des quatre, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Cléophas était donc le frère de Saint Joseph, époux de la de la Vierge Marie. Il est le même Cléophas avec son compagnon à qui le Christ s'est fait reconnaître sur le chemin d'Emmaüs à la fraction du pain. J'ai déjà expliqué ça. Il fut tué par les Juifs dans cette même maison d'Emmaüs à cause de sa confession du Christ et il mourut martyr le 25 septembre. Donc c'est Marie, une ou deux, on ne sait pas. On ne parle pas de la Très Sainte Vierge Marie, mais Marie épouse d'Alphée, Marie épouse de Cléophas et Marie Salomé faisaient partie des saintes femmes. On appelait les saintes femmes qui étaient toujours autour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui voyageaient avec les apôtres. Et elles étaient là surtout pour s'occuper de la nourriture. Elles devaient faire sans doute la nourriture des apôtres et pour nourrir 12 apôtres qui étaient des pêcheurs, pêcheurs de poissons, hein, et qui étaient des pêcheurs donc habitués au grand air, habitués aussi aux travaux physiques assez forts. Donc il devait y avoir bien du travail pour nourrir 13 personnes. Il fallait qu'elles nourrissent, même plus que ça, parce qu'il y avait aussi les sept femmes qui étaient à nourrir. Et donc, elles ont dû avoir bien du travail pour nourrir tout ce beau monde, toute l'équipe autour de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les apôtres. Et puis également, vraisemblablement, il ne faut pas avoir les choses en face, certainement, c'était elles qui devaient s'occuper de la lessive et les choses comme ça. Elles ont dû avoir un rôle tout particulier. Et elles ont eu en plus une connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ assez extraordinaire, hein, parce qu'elles l'ont vu vivre de façon de façon régulière, de façon quotidienne. Parmi ces saintes femmes, il y avait aussi, bien sûr, Sainte Marie-Madeleine. Donc, nous avons terminé avec ce chapitre 13. Donc, chapitre 13, qui était donc un chapitre assez long, 58 versets. Nous allons maintenant aborder le chapitre 14, qui, lui, est beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Et plus facile à expliquer, je dirais. Puisque le chapitre 14, il n'y a que 36 versets. Alors, nous commençons l'explication de ce chapitre 14 de Saint Matthieu à la page 32. Versets 1 à 5 du chapitre 14 de Saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, apprit ce qui se publiait de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela que les miracles se font par lui. Car Hérode s'était séjour de Jean-Baptiste, il l'avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodiade, femme de son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir cette femme, et voulant le faire mourir, il craignait le peuple qui regardait Jean comme un prophète. Alors, il est un peu difficile de s'y retrouver sur le plan historique, parce que beaucoup de ces monarques avaient le même nom, et étaient appelés par leur prénom, et c'était le même. En fait, le roi Hérode, dont on parle à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, était le père de celui-là, dont il est parlé ici, Hérode le Tétrarque. Le premier Hérode était mort, et eut pour successeur Archélaüs, son fils, qui 10 ans après fut exilé à Vienne, dans les Gaules. César Auguste, empereur romain, divisa alors ce royaume en quatre principautés ou tétrarchies, et en donna trois parties aux enfants d'Hérode. Cet Hérode qui fit décapiter Saint Jean-Baptiste, cet Hérode dont parle ici le texte du chapitre 14 de saint Matthieu, cet Hérode qui fit décapiter saint Jean-Baptiste est donc le fils d'Hérode le Grand, sous lequel le règne duquel naquit notre Seigneur. C'est pour bien marquer cette différence que l'Évangile lui donne le nom de tétrarque. Tétrarque, pourquoi? Parce qu'il était en charge d'une tétrarchie. Donc pour empêcher les révolutions de palais constantes, l'empereur romain avait divisé cette zone-là en plusieurs parties géographiques. Bon, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs ces différents tétrarques de se battre les uns contre les autres et s'entretuer joyeusement. La crainte de Dieu, disent les pères, réforme la volonté coupable. La crainte des hommes l'arrête pour un instant, mais ne la change pas. Elle rend plus ardent pour le crime ce dont elle a enchaîné quelque temps les violents désirs. Et si on ne met pas notre Seigneur Jésus-Christ dans l'histoire, on ne peut pas avoir de paix politique, hein, faut bien comprendre ça. Et on le voit très bien ici, l'empereur romain a eu beau diviser les pouvoirs entre les différents tétrarques, ils continuent de s'entretuer. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas au milieu d'eux. Et je pense qu'il faut rappeler ces choses-là, surtout aujourd'hui, c'est tout le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, en France, on a une période de pratiquement révolutionnaire, pratiquement de pré-guerre civile. Hein. Et quand on voit la révolte des Gilets jaunes, au moment où j'enregistre ce cours, en plein dans la révolte des Gilets jaunes, j'irais une révolte qui est parfaitement légitime. C'est toute la classe moyenne qui n'en peut plus, écrasée, écrabouillée par 70% de taxes ou presque, d'impôts partout, écrabouillée sur plan politique, écrabouillée sur plan économique, écrabouillée sur tous les plans. Et donc ils veulent sauver leur pouvoir d'achat. Sauver le pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est que ça ne sert absolument à rien de vouloir sauver le pouvoir d'achat si on n'a pas compris que la France est d'abord malade dans son âme. C'est le maréchal Pétain qui a eu le courage d'utiliser cette phrase. La France est malade dans son âme. Un fameux discours, il avait prononcé cette phrase historique. La France est malade dans son âme. Et tant qu'on n'a pas compris que la France est malade dans son âme, ça ne sert absolument à rien de rétablir et sauver notre pouvoir d'achat. Ça sert à quoi de sauver notre pouvoir d'achat si la fondation même de la société s'écroule? On me fait penser à quelqu'un qui constate que la maison, l'édifice dans lequel il habite est en train de s'écrouler. Alors il y a tout qui s'écroule. Et puis, ils voient qu'il y a des fuites dans le toit, alors ils veulent absolument sauver le toit. Donc, ils veulent changer les tuiles du toit pour qu'il n'y ait plus de fuites à l'intérieur. Très bien. Seulement, ils ne voient pas que les piliers qui supportent le toit sont complètement branlants et menacent de s'écrouler. Prend un premier coup de vent, vont s'écrouler. Alors, ça sert à quoi de changer les tuiles du toit si les piliers qui supportent le toit sont complètement pourris? Et puis si on regarde un peu plus près, on s'apercevra même que les fondations qui supportent les piliers lesquels supportent le toit sont également complètement branlantes. Alors on veut faire un travail cosmétique en changeant les tuiles du toit, on ne se rend même pas compte que les piliers et les fondations des piliers sont complètement pourries, donc on perd son temps. Quelle est la fondation de la société politique en France et dans le monde entier d'ailleurs? La fondation de la société, c'est, sur le plan naturel, la famille. Alors, il était évident que le gouvernement français actuel fait tout pour détruire la famille. Tout. Toutes ces lois épouvantables sur la théorie du genre, pour le divorce, l'avortement, toutes ces horreurs, eh bien, ont pour but de détruire la fondation même de la société qui est la famille. Si la famille saute, toute la société s'écroule. La famille, si vous voulez, est aux fondations. Et la famille représente la fondation, une petite comparaison que je viens d'utiliser, de la maison qui s'écroule. La famille, c'est la fondation, sur le plan naturel, je parle. Et donc, on ne peut pas, ça ne sert absolument à rien de vouloir sauver son pouvoir d'achat si on ne commence pas par comprendre qu'il faut d'abord remettre le bon Dieu au milieu. Et pratiquement, personne n'en parle. Personne n'en parle. Seule personne, à ma connaissance, qui a le courage de parler de ça parmi les gens qui sont dans la politique, c'est M. Scala. Avec son association Civitas, qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui a quand même de bons, très bons éléments. Et lui a le courage de reconnaître que c'est ça, qu'il faut d'abord s'occuper du spirituel. Hein, tant que, on pourra détruire la vie humaine par l'avortement, tant qu'on pourra détruire la famille par un divorce, tant qu'on pourra détruire les enfants par la théorie du genre, ça sert absolument à rien, encore une fois, de se battre pour récupérer son pouvoir d'achat. Oui. Donc la crainte de Dieu arrête la volonté coupable, mais pas la crainte des hommes. La crainte des hommes, elle empêche de faire les bêtises. On ne fait pas de bêtises, c'est même parce que la police est là pour nous empêcher de les faire. La crainte de Dieu réforme, il change complètement l'âme. Versets 6 à 12. Le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Avertie d'abord par sa mère, elle lui dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Saint Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il ordonna qu'on la lui donnât. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Alors ses disciples vinrent, prirent son corps et l'ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Passage important. Sa tête fut le prix d'une danse, disait Saint Curé d'Ars. La tête de Saint Jean-Baptiste fut le prix d'une danse. Il avait tellement bien compris ça qu'il avait fait inscrire cette parole, sa tête fut le prix d'une danse, sur l'arc de la chapelle latérale, à l'entrée de la chapelle latérale de Saint Jean-Baptiste. À Ars, en chapelle d'Ars, la chapelle de Saint Curé d'Ars. Parce que Dieu sait si déjà en son temps il avait dû se battre toutes les forces de son âme contre deux choses qui avaient complètement détruit la petite bourgade d'Ars, à savoir l'alcool, enfin les bars, l'équivalent de l'époque, et puis les danses, qu'on appelait les gigues. Alors il avait réussi, après des années et des années de combat, à la fin de sa vie, il avait réussi à supprimer tous les bars et à supprimer également, on appelait ça des cabarets à l'époque, mais c'était la même chose. À supprimer tous les cabarets et interdire les gigues, interdire les danses. Et tous les mois, il y avait ce qu'on appelait le violeux, c'est-à-dire un monsieur qui venait avec sa vielle pour faire danser les jeunes, qui venait à Ars pour faire danser les jeunes. Et le Saint-Curé d'Ars l'attendait à l'entrée du village, et quand il le voyait arriver, il l'approchait et il disait: Dis donc, combien on vous donne là pour faire danser les jeunes? Alors il répondait avec un prix, je sais pas combien c'était à l'époque, mais disons qu'il disait: Bon voilà, on me donne l'équivalent de 50 euros pour faire danser les jeunes. Très bien, je vous en donne 100 et vous partez tout de suite. Et le faisait filer. Malheureusement, beaucoup de jeunes se sont révoltés, même quand dans la ville de Sagrada, on voit ça. Et beaucoup de jeunes se sont révoltés et n'acceptaient pas ça, ils disaient rien parce que Sagrada avait une telle autorité morale qu'ils n'osaient pas l'attaquer de front. Mais ils allaient dans le village voisin pour assister aux gigues, assister aux danses. Et le mal se faisait. Saint-Curé d'Ars s'expliquait justement à chaque fois qu'un jeune homme ou une jeune fille rentrait sur une piste de danse, l'ange gardien restait à la porte et était remplacé par un démon. Et donc très vite, il y avait sur la piste de danse autant de démons que de danseurs. Et il disait ça, mais bien cher frère, il disait ça au 19e siècle. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec les danses d'aujourd'hui? Eh bien, sa tête fut le prix d'une danse. Ne pas oublier ça. Donc, Hérode, le roi Hérode, avait un frère qui s'appelait Philippe. Philippe était marié à Hérodiade, justement, donc qui était une sale bonne femme. Et cette bonne femme avait, cette femme avait quitté son mari légitime. Non, je me trompe, attendez, je suis en train de vous dire des bêtises. Reprenons le texte pour que je ne vous dise pas de bêtises. Hérode s'était saisi de Jean, l'avait fait lier, mettre en prison à cause d'Hérodiade, femme de son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir cette femme. Donc c'était Philippe qui vivait. Non, c'est ça, c'est bien ce que je vous dis. Hérodiade était la femme de son frère qui avait abandonné son mari. Donc pour lui, il y a quelqu'un d'autre. Donc, elle avait une fille qui s'appelait Salomé, qui savait bien danser. Et donc, elle va danser devant Hérode, avec sa cour. Et Hérode avait déjà bu sans doute un coup de trop, avec la cour aussi. Et il va être sous le charme de la danse de Salomé. Et il va lui faire ce serment absolument, absolument invalide. Je vous promets de vous donner tout ce que vous demanderez. Même si vous me demandez la moitié de mon royaume, je vous le donnerai. Alors elle va demander, suggestion de sa mère, poussée par sa mère, donnez-moi ici sur un plat la tête de Saint Jean-Baptiste. La tête de Saint Jean-Baptiste. Le roi fut attristé à cause de son serment. Tous ceux qui étaient à table avec lui ordonna qu'on la lui donnât. Il est évident, les gens nous posent souvent cette question, monsieur l'abbé, est-ce qu'il était tenu par son serment? Bien sûr que non. Un serment n'est valide sur plan moral que si la chose qui est promise, sous peine de péché mortel, une promesse faite sous peine de péché mortel, c'est ça, un serment, la chose n'est, le serment n'est valide, n'est moral que si la chose elle-même est morale. Hein? D'assassiner quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de moral, donc le serment était invalide. Et donc il avait fait ce qu'on appelle un vœu très imprudent de donner à cette jeune fille qui venait de danser pour lui et pour ses invités n'importe quoi, qu'est-ce que soit ce qu'elle demanderait. Il aurait dû dire, je peux pas te demander, tu ne veux pas me demander de faire un crime, hein, demande-moi autre chose. Et non, il a cédé à la tentation. Donc le serment de Hérode était absolument invalide. Cette jeune fille, disent les pères, est doublement coupable, en bas de la page 32, par sa danse lascive et pour avoir séduit Hérode à ce point qu'elle put demander un meurtre pour récompense. Vous voyez quelle cruauté dans cette danseuse impudique et quelle faiblesse dans Hérode. Il se lie par un serment, il la rend maîtresse de la demande qu'elle voudra lui faire. Donc, on voit ici quelles sont les conséquences justement de l'usage de l'alcool de façon déraisonnable, hein, des fautes qui sont entraînées par la danse. Et on voit ici, avec l'exemple de la mort de Saint Jean-Baptiste, les conséquences de ça. C'est pour ça que Saint Cyrille s'est fait mettre cette phrase, encore une fois, sa tête fut le prix d'une danse. Il faut y penser. Hein. Alors, malheureusement, ces danses sont toujours là, dans les milieux de la tradition. C'est épouvantable, surtout la fraternité sacerdotale Saint-Pélis. Encore régulièrement, les mamans qui avaient une peur, panique que leur fille reste sans trouver un mari, organisaient justement, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant, des boums, des surboums. De mon temps, c'était la surboum. Maintenant, c'est la. On appelle ça, je ne sais plus comment. Ça change tout le temps le terme, mais les rallyes, je crois qu'ils appellent ça. Mais posons-nous la question, est-il possible pour quelqu'un qui rentre dans un lieu de ce genre de rester en état de grâce? Vous voyez? Parfois, les gens me posent cette question, de bonne foi, hein, ils ne le font pas de façon hypocrite. Des maris me posent la question, me disent, monsieur l'abbé, ou des mamans me posent cette question, monsieur l'abbé. Je sais que mon mari aimerait bien aller en boîte de nuit avec moi, avec sa femme. Il sait qu'il ne peut pas y aller tout seul parce que c'est trop dangereux, il y a beaucoup trop de tentations, mais avec sa femme, est-ce que je peux accepter? Je réponds toujours la même chose. Écoutez, en soi, s'il y va qu'avec vous, et qu'il ne danse qu'avec son épouse légitime, c'est peut-être pas un péché en soi. Cependant, on peut nier le fait qu'une boîte de nuit soit en fait, une occasion de péché, une occasion de péché mortel. Donc, c'est ici une occasion est une occasion prochaine de péché grave, une occasion volontaire prochaine de péché grave n'est pas excusable. Et je pense que les catholiques doivent avoir le courage de refuser d'y aller. Il est dommage de voir que beaucoup de nos fidèles ne comprennent pas ces choses-là. Encore une fois, on retombe sur cette mondanité dont je vous parlais tout à l'heure. Dieu n'abaisse et ne humilie ainsi ses élus sur la terre que parce qu'il sait comment il leur récompense, il récompensera dans le ciel. Concluons de là que souffriront un jour ceux qu'il réprouve et qu'il tourmente ainsi ceux qu'il aime. Rappelez-vous la phrase de Saint Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Saint Jean-Baptiste faisait déjà par cette phrase allusion à sa fin. Il a été diminué parce qu'il a, physiquement parlant, parce qu'on l'a décapité. On l'a décapité. La tête de Saint Jean-Baptiste, l'os frontal en fait, de la tête de Saint Jean-Baptiste est à Amiens. À Amiens, il y a la relique insigne de Saint Jean-Baptiste qui était ramenée de Palestine. Et qui a fait toute la fortune d'Amiens. Si la cathédrale d'Amiens a pu se construire, c'est une des plus belles cathédrales de France, et qui est restée intacte parce qu'elle n'a pas été saccagée pendant la Révolution française. Si la cathédrale d'Amiens a pu être construite, c'est grâce à la présence de cette relique qui a attiré des foules invraisemblables du monde entier de l'époque, surtout des Flandres et toute l'Europe, pour venir vénérer les reliques de Saint Jean, la relique de la... Non pas la tête complète, une partie de la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc, dans le sens mystique, en bas de la page 32, Jean est la figure de la loi, parce que c'est la loi qui a prédit le Christ. Et c'est en prenant son point de départ dans la loi qu'il annonçait lui-même le Christ. Hérode est le roi du peuple, et en cette qualité, il représente seul la personne et la cause de tout le peuple qui lui est soumis. Jean-Baptiste, donc ici, rappelait à Hérode qu'il lui était défendu d'épouser la femme de son frère. Donc là, pour revenir à ce que je disais, qui n'était pas très clair au début. Donc Hérodiade était femme légitime du frère de Hérode, donc Philippe. Elle avait abandonné son mari légitime et vivait en concubinage avec Hérode. Le peuple de la circoncision. Donc qu'est-ce que représente justement cet interdit qui est toujours valable aujourd'hui? Il ne faut pas oublier, mes bien chers frères, que ici on le voit très bien avec ce texte du chapitre 14 de Saint Matthieu, que le mariage est indissoluble. Le mariage est indissoluble, on le voit déjà à l'époque, le mariage était déjà indissoluble au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque Saint Jean-Baptiste disait à Hérode, vous n'avez pas le droit de vivre avec la femme de votre frère, puisqu'elle n'est pas la vôtre. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Donc attention, surtout dans les milieux catholiques, dans la tradition, attention justement de ne pas nier d'une façon directe ou d'une façon indirecte l'indissolubilité du mariage chrétien. Vous savez, dans l'église de Vatican II, ils acceptent le divorce, on a changé de nom simplement, ils appellent ça l'annulation de mariage. Un mariage ne s'annule pas tout simplement, purement et simplement. Rappelez-vous la thèse de théologie morale qui est de foi. Qu'un mariage valide, ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être détruit par aucune puissance au ciel et sur la terre. Et Dieu lui-même ne peut pas détruire un mariage valide, ratifié et consommé. Il y a des cas, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça serait beaucoup trop compliqué, on a déjà expliqué tout ça dans le cours de catéchisme sur le mariage. Pour ceux qui veulent plus d'explications, allez-y. J'ai également fait une conférence sur le site sur les annulations de mariage. Je crois que c'est la dernière des lettres doctrinales avec la conférence qui correspond sur ce sujet-là. Donc attention, le mariage chrétien est toujours indissoluble, y compris maintenant. Il y a actuellement, dans l'Église moderne, des centaines de milliers de cas d'annulation de mariage qui sont inadmissibles parce que justement le mariage est indissoluble. Qu'il y ait des cas douloureux, je suis entièrement d'accord, mais un cas douloureux, ça ne va pas supprimer la loi divine. Donc pensez-y avant de vous marier. Et vous, surtout les jeunes filles, quand vous pensez à vous marier et que vous commencez à sortir avec un jeune garçon que vous croyez bien, et un jeune homme que vous croyez bien, que vous vous rendez compte que ce jeune homme a déjà été marié auparavant, il faut dire, couper tout de suite. Il ne faut pas dire, oui, mais il m'a dit qu'il avait fait une demande d'annulation de mariage et qu'il va l'obtenir. Mais attendez, demande d'annulation de mariage, encore une fois, un mariage véritable ne est indissoluble, ne peut être dissous par aucune puissance au ciel et sur la terre. Ah, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, on est en 2018 et aujourd'hui en 2018, la plupart des gens qui se marient ne sont pas au courant de tout ça. Et donc les mariages sont invalides parce qu'ils n'ont pas vraiment dans leur intention le désir de garder les trois conditions sine qua non pour que le mariage soit valide, à savoir l'indissolubilité, l'unité et l'acceptation des enfants. Non mais attendez, vous prenez vraiment les gens pour des imbéciles? Les 99% des gens, surtout dans le milieu catholique, qui se marient, au moment où ils se marient, Même dans l'église moderne, au moment où ils se marient, ils ont l'intention de se marier pour la vie. Je l'aime, elle-même, on se marie pour la vie. Vous leur demandez, est-ce que vous avez l'intention de vous marier pour toute la vie? Oui, est-ce que vous avez l'intention de garder uniquement cette épouse et pas en prendre une deuxième et garder une deuxième épouse cachée quelque part dans un placard à la maison? Ah non, 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 monsieur l'abbé, j'accepte l'unité, j'accepte l'indissolubilité, j'accepte les enfants. Le mariage est valide. Attention. Et personne ne peut venir après, y compris la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, pour vous dire, ah, mais votre mariage était invalide parce que vous compreniez, vous n'étiez pas suffisamment mûr au moment de votre choix premier, et donc votre mariage est invalide. C'est faux. C'est faux. Donc, attention, on voit beaucoup trop de cas comme ça, ce qui nous pose d'énormes problèmes. D'énormes problèmes quand nous avons des nouveaux fidèles qui viennent chez nous. Bah, chaque fois, heureusement, mais souvent, il y a des problèmes, de gros problèmes de mariage derrière. Hein. Gros problèmes de mariage derrière. Alors, on est obligé maintenant de poser des questions. Je suis obligé de faire ces choses-là pendant les retraites, surtout. Les gens qui. Je pose toujours des questions au début des retraites, quand les gens viennent me voir si, pour aider un petit peu pour la préparation des confessions générales. Je suis obligé d'avoir des sujets, malheureusement, en disant, mais bon, vous êtes célibataire ou marié? Je suis marié, monsieur l'abbé. Bon, très bien. Et je suis obligé de poser la question, vous avez été marié plusieurs fois ou une seule fois? Ah, vous savez, c'est mon épouse légitime, c'est la seule que j'ai jamais eue, très bien. Mais très souvent, malheureusement, les gens commencent à regarder leurs doigts de pied en disant, ben oui, monsieur le B, j'ai été marié auparavant. Un mariage religieux, non? Ben oui, mais j'ai, monsieur l'abbé, j'ai obtenu une dispense, j'ai obtenu une dispense de justement à cause de ce manque de maturité que j'avais à l'époque, et donc mon mariage était annulé par l'Église de Vatican II. Monsieur, vous pouvez, je ne peux pas vous donner l'absolution, c'est impossible tant que vous vivez avec la deuxième épouse, puisque votre première épouse est toujours vivante. Et le fait que parfois les gens qui sont dans ces états-là soient des gens très connus dans la tradition ne change rien du tout au problème. Hein. On ne change pas la loi du bon Dieu. Et ici, le martyr de Saint Jean-Baptiste en est une preuve flagrante. Hein. Saint Jean-Martyr est mort martyr pour défendre la sainteté du mariage chrétien, défendre l'indissolubilité, l'unité du mariage chrétien. Alors, voilà le sens mystique donné par les pères de l'Église en bas de la page 32. Donc, Saint Jean-Baptiste rappelait donc à Hérode qu'il lui était défendu d'épouser la femme de son frère, Hérodiade, car le peuple de la circoncision et les gentils forment deux peuples distincts. C'est-à-dire cette différence manifeste, la différence qui existe entre le peuple de la circoncision, c'est-à-dire le peuple des Juifs, et les gentils. Ces peuples sont frères et descendent de la souche commune du genre humain. Mais la loi défendait au peuple d'Israël de se mêler aux œuvres des gentils et d'imiter leur incrédulité qui leur était étroitement unie comme les liens intimes du mariage. Donc attention à ces choses-là. Je pense qu'il faut que les parents catholiques qui m'écoutent fassent très attention dans l'éducation, surtout de leurs jeunes filles. Surtout de leurs jeunes filles. Vous voyez? Et puis que les enfants, enfin les enfants, les enfants, les jeunes adultes dans les familles qui pensent légitimement au mariage, qui peuvent faire légitime, mariage c'est un sacrement, attention, une bonne chose, mais qui commencent à se poser certaines questions, qui se rendent compte, qui commencent à être attirés par telle jeune fille ou tel jeune homme. Et le courage de tout de suite se faire protéger par leur famille, par leurs parents. Une jeune fille de 20 ans qui commence à être attirée un peu par un jeune homme, qui se rend compte qu'il y a un jeune homme qui commence à lui tourner autour et qu'elle n'est pas insensible aux avances de ce jeune homme, tout de suite elle en parle à ses parents. Les parents sont les premiers protecteurs, attention. Et parfois c'est le père qui prend les choses en main, avec raison, et qui dit, mais. Ben écoute, ce jeune homme, tu vas bien le voir. Il tourne un peu autour, demande-lui de venir me voir. On va voir s'il a le courage de venir me voir en face. Et puis, si le jeune homme refuse de venir, ça veut dire que cette relation n'est pas bonne. Et si le jeune homme accepte de venir, c'est un bon signe. Et puis là, le parent, le père de famille, le père de la jeune fille, doit avoir le courage de poser les questions qu'il faut. faut bien vérifier qu'il n'y a pas eu un mariage antérieur. Et si un mariage antérieur, et que la personne prétend avoir reçu une annulation de son premier mariage, il faut tout de suite qu'il oblige sa fille à couper complètement avec ce jeune homme. Et en général, quand le jeune homme n'en a pas parlé encore à celle qu'il veut séduire, c'est un très mauvais signe. Ça prouve qu'il a une très mauvaise intention derrière la tête. Vous voyez? Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut expliquer et rappeler ces vérités absolument, absolument essentielles. Dans mes pages. Donc on commence maintenant à la page 33. On voit ce que disent les pères sur cette danse. Le jour de sa naissance, c'est le jour de l'anniversaire d'Hérode, dire au milieu des joies profanes de la terre, la fille d'Hérodiade dansa, car la volupté, qui est comme la fille de l'infidélité, se mêlait à toutes les joies d'Israël, avec tous les mouvements désordonné de ses charmes séducteurs. Et le peuple lui était vendu comme par un serment. En effet, les Israélites vendirent honteusement les biens ineffables de la vie éternelle en se livrant au péché et aux voluptés du siècle.